Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La quête de l'amour. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Accompagne Frédéric jusqu'à son école, puis s'en retourne à la maison. Une fois à la maison, la porte est tombée sur son père. Leur gêné, il s'enferme dans sa chambre et attend le retour de Frédéric. Une semaine passe ainsi dans la crainte et la joie de cette nouvelle vie. Les jeunes gens ne voient le père que pendant les repas du soir. Et là, ils ne se parlent pas. Frédéric est heureux d'avoir Thomas chez lui. Ça lui fait une compagnie et remplace le frère qu'il n'a pas eu. Thomas s'attache à Frédéric parce qu'il attend son retour toute la journée et qu'il représente ce qu'il aimerait être. Les deux attachements se transforment pour tous les deux à de l'affection. Thomas, le matin, accompagne Frédéric à ses cours et le soir, il va l'attendre devant son école. Sur le chemin du retour, ils vont au parc de la Tête d'Or. Ou boire un verre, s'acheter des gâteaux ou au cinéma. Frédéric lui raconte sa vie. La mère absente, malade, en maison de repos, le père toujours en déplacement, les études qu'il n'aime pas vraiment, la solitude de cette grande maison. Thomas lui dit, tu as tout de même de la chance. Moi et ma mère, c'est un F3 dans une HLM, rue de Gerland. Tu sais pas ce que c'est, toi. Tu vas me dire, il y a la fraternité des pauvres, mon œil. Tu as vu mon père avec sa poufiasse et ma mère, et guère mieux quant aux voisins, engueulade sur engueulade. Je suis heureux d'être avec toi. Frédéric lui dit, et moi, je suis heureux que tu sois avec moi. Le père va les voir au salon. Et leur dit, mon enquête a été faite. Thomas, avec l'accord du juge pour enfants et tes parents, tu peux rester provisoirement ici. Merci, monsieur. Mais attention, ne fais pas de bêtises et dis-toi bien que ce n'est que provisoire. Tu vas être obligé, c'est de retourner à ton école. Mais ne crains rien, je vais t'y accompagner. Les deux jeunes gens sont très heureux. Le père, le lendemain, achète à Thomas des vêtements convenables. Eva, avec lui, au lycée Ampère où était Thomas, le proviseur accepte de le prendre, ou plutôt de le reprendre. Le temps passe. Thomas fait désormais partie de la vie du Frédéric et de son père. Et Thomas s'attache à cette nouvelle vie. Thomas et Frédéric sont toujours ensemble et ne voient personne d'autre. Frédéric lui apprend à faire du cheval. Joue au tennis, l'aide pour ses devoirs, ils font des projets d'avenir ensemble. Lorsque ma mère ira mieux, nous voyagerons beaucoup. Avec elle, tu verras. Au salon, le père leur dit « Comme Thomas, tu as bien travaillé au lycée et que tu as rattrapé ton retard, j'ai décidé c'est de te faire un cadeau. J'aimerais savoir ce que tu souhaites comme cadeau. Thomas lui dit,
un scooter.
Bien,
ce sera un scooter. Oh, merci. Frédéric demande, et pour les vacances, que faisons-nous, père?
Comme ta mère est encore malade, il faudra aller la voir d'ailleurs.
J'irai demain, père. Moi aussi.
Eh bien, puisque vous y allez, moi j'irai après-demain. Mais pour les vacances, je vous emmènerai chez l'oncle Franck.
Thomas fait la grimace. Frédéric lui dit,
ne t'en fais pas, l'oncle Franck habite en Virginie. Vous allez avoir des vacances formidables.
Le lendemain, après les cours, Frédéric veut aller voir sa mère, qui est dans une maison de repos qui se trouve route de Vienne. Elle fait une dépression nerveuse. Il demande à Thomas de l'accompagner.
J'aime mieux pas.
Tu vas venir avec moi. Il faut que tu la connaisses, c'est une femme formidable. Et puis un ami, c'est aussi pour les choses sérieuses. Tu vis chez elle, tu dois la connaître. Et je dois te présenter.
N'aie pas peur, je suis avec toi.
Et ils y vont. La maison de repos est au fond d'un grand parc avec jardin. C'est une maison Jean-Napoléon III. On se croirait dans une maison de santé. Il n'y a rien qui le désigne. Pas d'appareil, de personnel en grille blanche, de décor hostile. Le décor ressemble à une vieille maison normale avec de vieux meubles qui paraissent être des meubles de famille. J'ai dit tout à l'heure, on se croirait dans une maison de santé, je m'excuse, on ne se croirait pas dans une maison de santé. Frédéric sonne au portail. La porte s'ouvre. C'est une grosse femme qui l'aura ouverte.
J'aimerais voir ma mère.
La femme, de toute façon, les laisse entrer. Il se trouve dans un grand hall carrelé. En face, il y a une porte-fenêtre qui donne dans le parc. Frédéric lui dit,
viens.
Ils suivent le chemin qui mène à la maison Napoléon III.
C'est ici. Au rez-de-chaussée,
sur une terrasse, se trouve une double porte vitrée.
Frédéric frappe et entre.
Il y fait sombre, grande pièce, il y a deux places, coin salon, cheminée, paravent. Il y a un côté vieillot reposant. Ce n'est pas très propre et les meubles sont de qualité. Tapis sur le parquet est usé. Sur le lit est allongée une femme, grande, mince, cheveux brun roux, bien peignée. Elle porte une robe en laine jaune. Frédéric va vers sa mère.
Bonjour mère, il se branche pour l'embrasser.
Après l'avoir embrassée, elle lui dit «
Tu viens peu souvent. »
Le médecin ne veut pas que l'on vienne trop souvent. Les médecins sont des ânes. » Elle regarde Thomas. « Qui est-ce ? »
« C'est un ami, Thomas Poiret. En ce moment, il vit chez nous. »«
Enchanté, jeune homme. »«
Madame. »«
Comment va ton père ?»«
Il va très bien, mais est pris dans ses affaires. Il viendra te voir demain après-midi. »
« S'il vient pour faire des scènes, qu'il reste où il est. »«
Il m'en veut parce que le médecin lui a fait la leçon. »« Le médecin lui a dit que c'était de sa faute si j'étais malade. »« Alors il s'est mis dans une colère folle et m'a dit que j'étais une faiseuse d'histoire et que par ma faute, il avait une mauvaise réputation. »« J'avais beau lui dire que je n'y étais pour rien, que c'était le médecin qui avait trouvé tout seul notre déshumeur. C'est vrai, nous sommes jamais entendus, ton père et moi.
Et puis, tu ne vas pas prendre son parti, tu ne vas pas être de son côté.
Je suis du côté de personne, mère.
Si tu es de son côté, cela veut dire que tu es contre moi.
Tu m'entends ?
On a frappé à la porte, pas la porte qui est dans le parc, mais celle qui est dans le couloir.
Entrez.
Entre un petit homme, gros, chaud, en costume gris. Bonjour. Il voit les jeunes gens et leur dit : J'ai dit qu'il ne fallait pas de visite. Frédéric lui dit :
Mais si je ne viens pas, elle est malheureuse.
Il ne lui faut pas de visite, car il faut qu'elle oublie ses hantises, ses habitudes. La mère lui dit :
Mais docteur, je veux voir mon fils.
Madame, pour guérir, il faut que vous soyez tel pendant quelque temps que vous ne voyez pas les gens qui vous entourent. Allez, sortez, jeunes gens.
Mais je suis poissonnière. Je veux partir. Je suis malheureuse.
Frédéric s'approche du lit. Il se penche. Elle s'agrippe à lui.
Je veux partir. Je ne veux pas rester ici. Je suis malheureuse.
Frédéric a les larmes aux yeux.
Mère, je reviendrai. Je vous le promets.
Et il se dégage. Il se dirige vers la sortie avec Thomas et lui crie :
Sortez-moi d'ici ! Sortez-moi d'ici !
Une fois, dehors, dans la rue, Frédéric se plaque au mur de la maison de santé et pleure. Il dit à Thomas :
Mère, essayez de se suicider plusieurs fois. Elle ne supporte plus de vivre avec mon père. Et je ne sais pas pourquoi faire. Je les aime tous les deux. Je suis toujours obligée de me partager l'un pour l'autre. Et cela fait des années que ça dure. Si tu savais la vie que je mène. Elle déteste mon père pour rien. Juste pour incompatibilité d'humeur. Elle le rend coupable de tout. Pourtant mon père est un homme bon, charmant. Et elle aussi d'ailleurs. Mon père l'aime. Et souffre de la voix, se comporter comme ça. Je ne comprends pas. Et fais tout pour lui faire plaisir. Je suis malheureux. Si tu savais que je suis malheureuse. Se plaque contre Thomas.
Oh, pleure. Thomas lui dit, je suis là. Je sais, je ne suis plus seul maintenant. J'ai un ami. J'ai toujours rêvé d'avoir un ami. Et tu es là. Tu seras toujours là. Toujours.
Les jours passent, leur amitié devient plus profonde. Après ce qui s'est passé, Thomas se dit que le plus malheureux des deux, ce n'est pas lui, que Frédéric a plus besoin de lui, de son amitié. Il l'aime encore plus.
Un matin, en prenant le petit déjeuner, le père dit à Thomas,
« Ce soir, nous allons acheter le scooter. »
Thomas est fou de joie.
Il ne pense qu'à ça durant toute la journée.
Et le soir, lorsqu'ils rentrent des cours, ils vont retrouver le père au salon.
Le père leur dit,
« Thomas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le juge m'a convoqué cet après-midi et m'a dit que ton père veut te reprendre. Il s'est fait désintoxiquer. »
Thomas est surpris. « Je ne veux pas retourner chez mon père. Je n'aime pas mon père. »
« Je ne comprends pas. Tu as fait une fugue pour vivre avec lui. Maintenant, tu ne le veux plus. »
« Je veux rester avec vous. C'est vous que j'aime. »
« Mais ton père... »
Mon père ne vous voulait pas.
Et c'est vous que j'aime. Je veux vivre avec vous. Je comprends, Thomas. Mais c'est impossible. Tu es mineur. Ta famille peut porter plainte contre nous. Comprends-le.
Thomas regarde Frédéric qui a envie de pleurer.
Thomas dit au père, bien sûr, pour vous la vie est facile. Elle a toujours été.
Le père lui dit,
ne crois pas ça. Oh, ne crois pas ça.
Il prend Thomas par la main et le fait asseoir dans un fauteuil. Il se penche près de lui.
Moi aussi, j'ai eu une enfance difficile. Pour mon premier jour d'école, On m'a cassé toutes mes affaires. Des jeunes plus vieux que moi m'ont violé. La nuit, à cause de ça, je faisais des cauchemars terribles et n'arrivais pas à suivre les cours. Alors mon père me traitait de daltonien, d'idiot. Je m'enfermais en moi-même et rêvais de faire des films. Adolescent, j'ai fait des fugues pour aller à Paris parce que je croyais que je pouvais faire des films. Mes ennuis avec mes parents ne s'arrangeaient pas. Ils me traitaient de proparien, d'idiot. Et un jour, j'ai voulu leur prouver que je n'étais pas un daltonien. J'ai tout fait pour réussir. Toi aussi, tu dois réussir malgré eux pour leur prouver que tu es mieux que ce qu'ils pensent. Malheureusement, tu n'es pas major. Il faut que tu rentres chez toi et poursuives tes études. Écoute, si tu retournes chez toi, oui, chez toi, sans faire d'histoire, je t'offre le scooter.
Frédéric se m'a crié.
Et moi, je ne compte pas. On me demande pas mon avis. C'est injuste.
Et il sort du salon pour aller s'enfermer dans sa chambre. Le père va le rejoindre. Frappe à la porte et entre.
Écoute, je le fais aussi pour toi. Tu n'es plus un enfant. Il faut que tu penses à ton avenir. J'ai décidé, c'est que tu ailles poursuivre tes études en Angleterre. Parce qu'en France, ce n'est pas possible. On ne peut pas travailler comme il faut. Les profs sont trop politiques. Mais moi, je ne veux pas. Je veux que Thomas reste avec moi. Ne fais pas l'enfant. Thomas retourne chez son père. Voilà tout.
Et il sort de la chambre pour retrouver Thomas au salon.
Il te faut faire tes bagages et nous allons chez ton père.
Viens. Et Thomas suit le père de Frédéric. Il le met dans sa chambre. Pour faire les valises.
Une fois que la valise est faite, Thomas demande. Je peux aller dire au revoir, Frédéric?
Oui, bien sûr.
Et il sort de sa chambre pour aller à celle de Frédéric. Elle frappe avant d'entrer. Et entre. Frédéric est debout. Thomas va vers lui et se met dans ses bras.
Thomas dit : je ne veux pas partir.
Frédéric lui dit : ne t'en fais pas. Personne ne nous séparera. Dans quelques jours, je reviendrai à la sortie de ton lycée. Nous partirons ensemble. Tu me le jures?
Oui.
Et ils s'embrassent.
frapper à la porte. Frédéric lui dit. Vas-y.
Il est l'heure de partir.
Frédéric lui dit. Vas-y. Aie confiance. Thomas y va.
Le père a amené Thomas chez son père, qui vit toujours avec la fille. Il lui a promis qu'il lui amènerait le scooter. Thomas vit dans une chambre où une alcôve qui longe la salle à manger. Lui qui a pris l'habitude du luxe et du beau, cela le déprime de vivre dans un décor pauvre. Au milieu de gens, à qui il n'a rien à dire, et eux non plus n'ont rien à lui dire. Le père l'a repris pour faire bien vis-à-vis de la police et des médecins. Il n'y a pas de nouvelles de Frédéric. Il ne cherche pas à en avoir de peur de faire rater son plan. Le père, comme promis, lui a fait livrer son scooter, un beau scooter tout rouge. Il va au cours avec. Les jours passent. Thomas voit à la sortie du cours arriver à lui Frédéric. Salut, salut. Frédéric lui dit, ça va, si l'on veut. Si tu veux, si tu es encore d'accord, on peut partir ensemble. Oui, eh bien si tu veux, on part demain matin. Chouette! Nous partons et nous vivrons rien que nous deux. Oui. Où? En province, dans une petite maison qu'une de mes copines, elle nous le prête. Tu verras, ce sera bien. Ça te va? Oui, Frédéric lui dit. Ça me fait quelque chose. Quelque chose de partir avec toi. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Écoute. Je ne peux pas rester longtemps. Demain matin à 8h, devant l'entrée principale du parc, tu viens avec le plus de choses que tu peux. Te fais pas de soucis pour l'argent, j'en ai. Fais le plein du scooter. Il marche bien au moins. Oui, et ton père a eu une bonne idée pour me l'offrir. Il va bien nous servir. Et il se quitte. Thank you. est, le lendemain matin, à 8 heures, ils sont partis en scooter, heureux d'être ensemble. C'est fin juin, il fait soleil. Ils sortent de la ville, direction le sud. La circulation est fluide. Se sont arrêtés dans une auberge pour manger. Ils déjeunent de bon appétit. Ils sont heureux. Ils ont oublié leur peine. Ils sont redevenus des enfants. Ils sont repartis. Dans l'après-midi, il s'est mis à pleuvoir. La chaussée est un peu glissante. Ils filent et s'enivrent de vitesse. La pluie qui se plaque contre eux, leur visage ne les gêne pas. Tout à coup, ils voient, à la dernière minute, à cause de la pluie, un barrage de police. On leur fait signe de s'arrêter. Thomas prend port, panique, et tourne et file. Il file. Non. Thomas, les motards les suivent. Il file. Il a chaud, il a peur. La pluie se plaque contre lui, son visage. Il entend les motards qui s'approchent de plus en plus. Tout d'un coup, il voit que son scooter dévie. Un trou noir qui s'approche de lui.
Un mois plus tard, Frédéric frappe à la porte du salon.
Entrez.
Il entre. Son père est assis. Il va vers lui.
Tu vas mieux?
Oui.
Si ton ami est mort, c'est ta faute. C'est toi qui l'as tué. Cette fugue que tu lui as proposée était une gaminerie. Tu as agi comme un irresponsable. C'est toi qui l'as tué. Dans 2 jours, tu pars pour l'Angleterre. Tu poursuivras tes études. Je n'ai plus rien à te dire. Tu peux disposer.
Et Frédéric sort du salon.
C'est toi qui l'as tué. C'est toi qui l'as tué. C'est ta faute. Toujours il se souviendra de ce que vient de lui dire son père. Mais si son père et sa mère s'étaient entendus, ils n'auraient pas eu besoin de l'amour d'un ami. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La quête de l'amour, dont c'était la 2e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CV.